VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. RDC, la mort de l'icône de l'opposition congolaise Étienne Tshisekedi laisse le pays dans l'incertitude. Kinshasa, l'effervescente capitale congolaise reprend ses activités après avoir tourné au ralenti en début de journée. Eric Manirakiza.
Boutique fermée, conducteur de taxi-moto, communément appelé Wewe, fervent partisan de Tshisekedi, était absent dans la circulation. Des milliers de militants, pour la plupart des jeunes, étaient rassemblés aux abords du siège de l'UDPS et des résidences du vieux Tchitchi, comme il l'appelle, et de son fils Félix. En milieu de la matinée, la vie a repris son cours normal. Hier soir, des policiers ont délogé une cinquantaine de militants qui pleuraient le défunt à l'intérieur du siège du parti. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social est décédé en pleine négociation politique cruciale pour l'avenir de la RDC. Les cadres de l'UDPS se sont réunis aujourd'hui pour organiser les funérailles et décider de la suite à donner à leur action politique.
Hier à Kinshasa, la police avait usé de gaz lacrymogène pour disperser des militants venus au siège de l'UDPS. Aujourd'hui encore, un autre incident a été signalé à la résidence de Félix Tshisekedi, fils de l'illustre disparu. On écoute Joseph Mabanga, un membre du rassemblement de l'opposition.
Nous sommes passés d'abord par la résidence du président Tshisekedi. Nous avons présenté les condoléances à la famille qui est là. Il y a beaucoup de combattants qui sont là depuis hier. Et nous sommes allés dans l'avenue voisine. C'est là où habite Félix Tshisekedi. Nous sommes allés, les combattants sont également là. Nous sommes beaucoup de gens. Le militaire, pendant que nous sommes dans la résidence, d'abord on a coupé les courants, il n'y a pas de courant dans le quartier, ce qui est inacceptable. Pendant que nous étions là, un policier, Anthony, est venu et a jeté des gaz lacrymogènes. Il y a des mamans qui sont restées là évanouies. Nous, nous sommes sortis par le petit avenue derrière les maisons.
Joseph Mabanga, membre du rassemblement de l'opposition. Idrissa Sedoudi a demandé à l'écrivain Fidel Lumeya, un analyste basé ici aux États-Unis, comment il voyait le legs d'Étienne Tshisekedi et surtout comment sa disparition allait affecter le paysage et le futur politique de la RDC.
Tshisekedi, pour rendre l'analyse plus simple, il faut le prendre comme le Michel Platini, les Zinedine Zidane, les Zico, les numéros 10, les milieux de terrain du football congolais. Le football ici représente la politique congolaise. Quand tu es à Kinshasa ou bien dans les grandes villes du Congo, la politique est représentée sous l'image du football. On parle du football politique. Si nous restons sur cette image congolaise, Tshisekedi était les milieux de terrain politique.
Alors, comment est-ce que la disparition de ce milieu de terrain politique va-t-elle affecter l'avenir politique du Congo, surtout dans le cadre actuel où il y a des tractations de toutes parts pour trouver une sortie de crise pour le bon?
À ce niveau ici, c'est comme un milieu de terrain très, très actif qui joue sur la défensive et sur l'offensive qui sort du terrain. Donc, clairement, le jeu est déstabilisé. La situation politique à ce niveau ici est déstabilisée. Le rassemblement politique qui est représenté le président Tshisekedi doit se retrouver comme une équipe qui manque les milieux de terrain et qui ne sait pas comment se réorganiser très vite parce que ce sont les dernières minutes. Il y a un empressement. Donc, il y a un vide qui se fait ressentir. Ce vide-là n'est pas facile à combler.
Fidel Lumeya, un analyste basé ici aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nigeria, l'armée nigériane reconnaît que 112 personnes ont été tuées et 97 blessées dans le bombardement accidentel visant ces visées des combattants du groupe islamiste Boko Haram qui a affecté des civils et des travailleurs humanitaires à la mi-janvier dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a déclaré le général Lucky Irabor qui commande les opérations anti-Boko Haram lors d'une conférence de presse ce jeudi à Maiduguri, chef-lieu de l'état de Borno. L'organisation Médecins sans frontières, MSF, avait précédemment avancé un bilan d'au moins 90 morts dans les frappes aériennes sur la localité de Rann le 17 janvier, précisant que certains témoignages faisaient état de 170 morts. D'après le général Irabor, le fait que Boko Haram ait attaqué Rann au lendemain des frappes aériennes accidentelles montre que des islamistes se trouvaient effectivement dans les environs. Seulement, les coordonnées données à l'aviation nigériane étaient fausses. D'où ce triste incident que nous regrettons sincèrement, a souligné le général Lucky Irabor. Crise migratoire, plus de 1300 migrants ont été secourus hier au large de la Libye et au moins une centaine aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-côtes italiens et des ONG à la veille d'un sommet européen sur les migrations illégales. Salwa Jafari.
Les migrants secourus se trouvaient sur 13 embarcations de fortune. Ils se dirigeaient vers les ports de Reggio de Calabre et de Trapani en Sicile. Très tôt ce matin, un navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a secouru 100 personnes de plus, dont 41 mineurs non accompagnés. Des nouvelles arrivées qui viennent conforter les demandes du Premier ministre libyen Fayez Sarraj, qui se réunit à Malte avec des représentants de l'Union européenne.
Nous espérons que les mécanismes de l'Union européenne pour aider la Libye seront plus pratiques. Nous n'allons pas mentionner le montant d'argent dédié à la Libye parce qu'il s'agit de très petites sommes. Nous avons besoin d'une contribution plus importante pour parvenir à stabiliser la situation.
L'UE n'a pas publié de chiffres pour son aide à la Libye, mais le montant devrait être faible par rapport aux 6 milliards d'euros promis l'an dernier à la Turquie. Pour quel endigue le flux de migrants partant de ses côtes vers la Grèce.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon au programme ce jeudi à la CAN, Ghana-Cameroun, la deuxième demi-finale de la compétition. Lors de la première demi-finale hier, l'Égypte, déjà 7 fois champion d'Afrique, s'est qualifié pour la finale de l'édition 2017 devant le Burkina Faso. Un partout à la fin des 90 minutes réglementaires et 4-3 au tir au but. Le compte-rendu de Timothée Donagma est l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Pharaons ont misé sur l'expérience de leur gardien de but et capitaine Essam Kamal El Hadary, qui a repoussé les pénalties de Kwaku Hervé Kofi et de Bertrand Traoré. Le coach Hector Cooper se dit satisfait de la qualification des siens, même si les Burkinabés ont mieux joué.
Burkina Faso était meilleur que nous.
L'équipe est d'ailleurs meilleure que nous, surtout en deuxième mi-temps où elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité. Quant à nous, nous avons éprouvé beaucoup de fatigue et le souhait c'était d'attendre l'épreuve des tirs au but. Parce que c'est une épreuve dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer.
Le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a félicité les Égyptiens, mais estime que ces poulains auraient pu gagner la partie.
Mon attaquant va pour la surface, le défenseur coupe la balle avec la main. Monsieur l'arbitre, c'est un grand arbitre, souffle la faute. Après 30 secondes, après l'insistance de l'auxiliaire, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal qu'il y ait une passe, la loi dit, un passe entre un adversaire et autre. La balle est coupée avec la main, obligé, carton, pas de carton.
Le match pour la troisième place sera le plus difficile pour les étalons, a prévenu Paulo Duarte. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Les pharaons égyptiens retrouveront dimanche à Libreville en finale le vainqueur du match Ghana-Cameroun ce jeudi à Franceville. On termine avec l'actualité aux États-Unis. L'ex-PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, a pris aujourd'hui les rênes de la diplomatie américaine. Mais ce capitaine d'industrie proche du président russe Vladimir Poutine arrive dans un département d'État en quasi-rébellion contre l'administration Trump. Parmi les frondeurs, Thomas Countryman, qui a quitté son poste de secrétaire d'État adjoint. Et puis le président américain Donald Trump a menacé ce jeudi de couper les financements fédéraux de l'Université de Berkeley en Californie, où des manifestants ont violemment protesté la veille contre la venue d'un éditorialiste du site d'extrême droite Breitbart qui devait y donner une conférence de hier, réunion annulée à cause des troubles. Si l'Université de Berkeley ne permet pas la liberté d'expression et pratique la violence sur des personnes innocentes qui ont des points de vue différents, pas de fonds fédéraux, a écrit M. Trump sur Twitter. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.